Salut à tous, c'est Raph et je fais partie de la team Chronosoft. Heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous les fidèles et à tous les nouveaux pour ce nouveau numéro de Chrono Live. Vous le savez, c'est l'émission 100% dédiée aux pronostics diffusée en direct sur YouTube et sur Twitch. Alors, début de semaine compliqué pour nos deux pronostiqueurs qu'on salue immédiatement. Salut les gars, comment ça va?
Salut à
Salut
tous,
Raph, ça va?
Ça
Ça
pourrait
va
aller
pas trop
mieux.
mal au crâne? Ça va pas trop mal au crâne?
Après, ça a été plutôt sympa hier, l'Europa League, avec les victoires des Français, donc ça nous a redonné le moral, je pense.
C'est ça, change de sujet, on y revient tout de suite dans le débrief parce que ça va pas du tout, les gars. Alors, le plan de l'émission, vous le connaissez, hein. Donc, le débrief du Lotto-Foot, qui était un Lotto-Foot spécial Ligue des Champions, donc qui a commencé mardi. Le débrief des pronobooks de Chris et de Nadine. Bien sûr, le prono du Lotto-Foot 15 de dimanche, ce sera le numéro 71, pactolé à hauteur de 500 000 euros. La sélection book de Chris et Nadine pour le week-end. Et bien sûr, en fin d'émission, les questions et les réponses. Questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le chat. On se fait un plaisir de les compiler par l'intermédiaire de Seb, qu'on salue également à la technique. Bon, les gars, il s'est passé quoi? On commence avec le débrief du Lotto-Foot. Chris, tu
Ouais,
as
donc.
espoir. Alors, je vais juste dire que finalement, tu as eu la moyenne, quoi.
Voilà, exactement, j'ai eu la moyenne. Mais oui, après, le souci, c'est que des fois, on peut passer complètement à côté d'un loto-foot. Des fois, c'est des faits de jeu qui font que l'on passe aussi à côté. Et là, je trouve que cette semaine, ça a été sur pas mal de faits de jeu, hein. Je vais quand même rappeler toutes mes erreurs. Le Benfica Inter, où j'avais prévu une victoire du Benfica. Le Benfica menait quand même 3-0. Il se fait remonter quand même 3 buts partout, donc c'est quand même un gros manque de chance sur ce match-là. Je vais rappeler le pénalty raté d'Olivier Giroud dans les premières minutes avec le Milan AC. Le FC Séville qui menait 2-1 avant le carton rouge d'Ocampos à l'heure de jeu, donc c'est aussi une expulsion qui change totalement la donne et Eindhoven ensuite s'impose 3-2. Je vais rappeler l'attaque-défense, hein, entre la Real Sociedad et le Salzbourg, hein, donc je pense que la Real quand même méritait au moins de marquer au moins une fois sur ce match-là. Le Braga Berlin aussi, le carton rouge de Niakate, donc pour Braga à la demi-heure de jeu, qui change aussi à mon avis ce match. Et puis, bien sûr, le PSG Newcastle avec ce match, cette attaque défense des Parisiens. Alors c'est vrai que Paris n'a pas fait un grand match, hein, ça n'a pas été un match exceptionnel avec très peu de percussions, très peu de mouvements rapides, etc. Mais c'est quand même une équipe parisienne qui a tiré 26 ou 30 fois au but, hein, si je me rappelle bien. Donc c'est un score de un peu partout. Je pense que les Parisiens méritaient mieux et ils ont même évité le pire avec ce penalty assez avantageux dans les dernières secondes. Et voilà, après, je suis passé complètement à côté du Feyenoord d'Atlético Madrid. Là, il n'y a pas de regret du tout sur ce match-là où les Colchoneros sont imposés 3-1. Et si je dois donner une satisfaction, j'en ai quand même une, c'est ce Bayern Copenhague où je me disais que le Bayern était entre guillemets un peu en vacances sur ce dernier match et Copenhague avait envie d'aller chercher des points pour espérer peut-être un exploit et se qualifier pour les huitièmes. Mais Copenhague quand même a fait un bon match en prenant ce 0-0. Donc voilà, donc complètement à côté, à oublier, et il faudra se servir de ses erreurs pour faire mieux.
Bon, à votre décharge, les gars, personne n'a réalisé le sans faute en France, hein. Mais néanmoins, avec des si, avec des pénaltys, avec des si, des là, on ne peut rien savoir. Chris, tu ne
C'est
l'as pas
mérité.
volé, celui-là, il
C'est
est
mérité.
mérité. On enchaîne avec Nadim, qui finalement ne fait pas mieux.
Ouais, je fais pas mieux. Mais d'abord déjà, Chris, bravo pour le nul du Bayern, parce que c'était quand même la surprise. Je pense que c'est ce qui a fait fauter les 4 parieurs qui sont rentrés. C'était la grosse surprise de ce Lotto-Foot. Sinon, quant à moi, il y a un auditeur qui a demandé si j'étais meilleur quand je parlais du nez. Eh ben, pas vraiment, hein, parce que j'ai vraiment fauté partout. On va dire que les nuls et moi, on n'est pas copains sur cette grille parce que j'en ai trouvé aucun. Alors, j'avais tenté le double 1-1 sur Manchester City contre Leipzig. Il n'était pas si délirant que ça. Leipzig a même mené 2-0 et ils ont pris le but du 3-2 à la 87e minute. Donc, un petit fait de jeu ici, mais c'est à peu près tout. Et puis, l'autre satisfaction, alors, je ne sais pas comment le prendre. J'ai réussi la base sur les Young Boys Berne. C'est quand même la seule équipe dont on ne voit pas les images. Donc, peut-être qu'il vaut mieux pas ne regarder le foot, pardon, pour faire de bons pronos, allez savoir. Voilà, et puis quand même cocher le 2 de Dortmund qui était en forme et qui était capable de gagner sur la pelouse du Milan AC. Mais c'est à peu près tout pour les satisfactions. Donc, une grille à oublier.
Ouais, il n'y a pas de raison, pas de favoritisme, Nadine. C'est pareil. Je te claque un rouge parce qu'on sait que vous êtes capables de faire mieux tous les deux. On oublie cette grille de l'autofoot. Ça valait mieux ? Pensez avec le débrief book ou pas, Chris ?
Sûrement. Finalement, non. Hein, parce que, voilà, donc moi, j'avais misé sur des victoires de Paris et du Milan. Donc, les Parisiens et Milanais ne sont pas imposés. Donc, pas de but pour Ousmane Dembélé. J'avais espéré qu'avec ce but face à Monaco, il retrouve un petit peu de confiance et devant le but. Et ça a été encore beaucoup de maladresse du côté de Dembélé, que ce soit sur les passes décisives ou devant le but. Hein, je crois qu'il a deux occasions, il aurait pu peut-être en mettre une. Donc, voilà, grosse déception sur lui. Bien sûr, le Milan Dortmund avec ce pénalty raté de Giroud à la 5e minute de jeu, là c'est une grosse frustration quand même, parce que j'aurais pu sauver mon pronobook avec ce pénalty là. Et enfin Banza, voilà, qui n'a pas trouvé le chemin défilé, compliqué pour Braga à 10 contre 11. Donc voilà, donc un 0 sur 3 pour moi.
Nadim, je crois que tu fais jeu égal à ton compatriote.
Ouais, sauf que ça fait une belle série là de 2 ou 3 fois 0 sur 3, donc les buteurs, c'est vraiment pas ça en ce moment. Donc,
on va faire une montante.
Ouais, peut-être, pour se ruiner. Mais satisfaction sur le Shakhtar, puisque j'avais dit que je sentais bien la victoire des Ukrainiens. Ils se sont imposés seulement 1-0, je dirais, avec des balles de 2-0. Mais le Sikan n'a pas marqué, malheureusement. Braga, Chris l'a rappelé, il y a eu le carton rouge. Mais malgré ça, Ricardo Horta avait eu une énorme occasion de marquer. Mais bon, quand on est attaquant, il faut plus qu'une occasion en général. Et puis Kubo, il est rentré pour le dernier quart d'heure. Je pensais qu'il serait titulaire et Oyarzabal était bien remis de sa blessure et était titulaire. Kubo aurait pu jouer, mais n'a pas joué juste le dernier quart d'heure. Donc celui-là, normalement, vous ne le jouiez pas puisqu'il n'était pas titulaire. Et puis sur Séville, PSV, j'ai un peu vibré quand même puisque Enesiri a marqué. Mais malgré les 3 buts des Néerlandais, De Jong n'a pas marqué. Donc le fun n'est pas passé loin. C'est mon meilleur prono sur les 4.
Allez, des pronos qu'on oublie, et c'est le moment opportun pour vous rappeler qu'il ne s'agit en rien de conseils vous faisant miroiter le moindre gain, mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision. Libre à vous ensuite de faire vos choix personnels, dont vous serez les seuls responsables, qu'ils soient gagnants ou perdants. Je crois qu'il n'a jamais été aussi bien placé, hein, ce paragraphe. Allez, on se projette dans l'avenir. L'avenir, c'est ce week-end, c'est le Loto Foot 15 numéro 71, un nouveau pactole de 500 000 euros. La grille sera composée de 5 matchs de Ligue 1, de 3 matchs de Liga, de 3 de Première Ligue, 2 de Serie A et 1 de Bundesliga. Le premier match, on va commencer avec Chris, c'est Marseille face à Rennes. Et Rennes, Chris, qui reste sur 7 matchs consécutifs avec but encaissé. Marseille 12e, Rennes 10e. Et d'entrée de jeu, tu joues un joker, sûrement pour te rassurer.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, exactement ça, c'est juste pour me rassurer. Comme tu l'as dit, 12e qui reçoit le 10e, c'est un duel entre deux formations qui je trouve ont beaucoup de points en commun sur cette saison, hein, puisque ces deux équipes sont en manque de points et en besoin de points en Ligue 1. C'est deux équipes qui ont changé d'entraîneur cette saison, c'est deux formations qui ont gagné cette semaine en Coupe d'Europe et qui sont en tête de leur groupe en Europa League. Donc c'est assez étrange de les voir en difficulté dans le championnat de France. Alors je ne sais pas quoi penser de ce duel entre Rennes et Marseille. Je vais juste dire que Rennes a quand même renoué avec la victoire, avec ce changement d'entraîneur, et renoué avec la victoire devant Reims. Donc ça, c'est un point quand même important pour les Rennais, plutôt pour la confiance, c'est bien. Et par contre, Marseille n'a plus gagné en Ligue 1 depuis 4 journées. C'est assez inquiétant pour les Marseillais, parce que je trouve que ce jeudi, même face à l'Ajax, même si on a vécu un très très beau match, hein, avec cette victoire marseillaise 4-3, mais c'est quand même une équipe marseillaise qui a été énormément fébrile dans le secteur défensif, qui a concédé beaucoup d'occasions, qui a bien sûr encaissé ses 3 buts. Donc je suis quand même inquiet du côté de Marseille. Donc un triple pour moi, pour pas prendre de risque. Mais si j'ai une préf, ça serait plutôt du côté du N2.
Nadim, toi, tu fais des Olympiens une base.
Ouais, je fais des Olympiens une base. Après, c'est un match très équilibré et je me mouille un peu dessus puisque c'est quand même deux équipes qui tentent de sortir de la crise. Alors, les Rennais sont en train de le faire et il y a bien eu l'électrochoc suite au changement d'entraîneur avec deux victoires de rang. Maintenant, il s'agira de se déplacer au Vélodrome qui est jamais un terrain facile. Et les Marseillais, alors, ça fait 4 matchs qu'ils ne s'imposent pas en championnat, mais ils ont quand même réussi à obtenir l'essentiel hier soir dans la douleur. Mais c'est quand même une victoire qui va faire du bien. Et surtout un triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, donc qui va être vraiment en confiance, je l'espère, pour cette attaque marseillaise. C'est là-dessus que je compte, en tout cas, pour ma base.
Merci. Lille-Metz, ce sera le deuxième match. Lille grosse base sur la réparte, alors on se parle à 82% environ. Lille 4e et Metz 9e, Nadim joue un premier joker 1N, alors que Chris, lui, de son côté, base les dogs.
Oui, après, c'est une petite base. Hein, c'est une petite base parce que Lille vient de faire quand même un long déplacement en Slovénie là, ce jeudi en Coupe d'Europe. Alors, c'est toujours plus facile quand on gagne et en plus quand on prend les commandes de son groupe en Conference League. Mais faut quand même être prudent. Maintenant, je pense que Lillois peuvent s'imposer face à cette équipe Messine. C'est une équipe de Lille quand même qui est invaincue depuis 7 journées dans le championnat de France de Ligue 1. Il y a eu cette dernière victoire assez facile à Lyon sur le score de 2-0. Je trouve que c'est plutôt intéressant pour les Lillois, sachant que Jonathan David a retrouvé le chemin défilé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt de bonne augure avant de recevoir une équipe Messine qui est en pleine réussite actuellement. C'est une équipe de Metz qui reste sur 2 victoires face à Nantes et Lorient, mais c'est quand même 2 équipes qui luttent pour le maintien et qui sont plutôt en difficulté, alors que c'est pas le cas du côté de Lille. Hein. On rappelle quand même que Lille est aux portes du podium dans ce championnat. Donc je vais plutôt me tourner donc vers ces Lillois, et en plus je vais rajouter que Metz, même si Metz a réussi une grosse performance à Lens avec une victoire 1-0, une victoire avec beaucoup de réussite, les Messins ont quand même perdu 5-1 à Rennes, ont perdu 3-0 à Toulouse et 2-1 à Monaco. Donc pour moi, un léger avantage aux Lillois qui sont quand même assez solides à domicile.
Merci. Nadine, tu vois les Grenats capables de partager les points?
Ouais, c'est ça. Je vois évidemment le LOSC favori. Il y aura la préf sur le 1, comme je le rappelle dans mes préfs. Alors le LOSC, ils ont atteint leur rythme de croisière en ce moment. Ça fait 2 mois qu'ils alternent victoire et match nul. Donc c'est plutôt positif du côté des Dogs. Mais en face, les Messins, ça fait 4 matchs qu'ils ne perdent pas. Ils restent sur 2 victoires face à des concurrents directs qui vont faire un énorme bien à cette équipe Messine. Et surtout, les 2 dernières fois que le LOSC s'est déplacé en Conference League le jeudi soir, ils se sont fait accrocher. Alors, c'était à Lens lors du premier déplacement et surtout, plus inquiétant, lors de la réception du Toulouse Football Club avec un 0-0, donc après un déplacement. Là, ils se sont déplacés en Slovénie. Donc, méfiance avec ce nul, un peu spéculatif, mais pas tant que ça.
Merci. 3e match, toujours en Ligue 1, c'est Monaco-Montpellier. Je répète, Monaco-Montpellier, donc un initialico, je vous dis. Et ce sera votre premier.
Ouais. Même 2 initiales, enfin même 2 premières lettres. Oui.
3. Exact. Exact. Donc c'est un double nul en fait, c'est ça?
Triple, ouais.
Donc ça va faire nul et en plus ça va faire 0-0. On va le noter pour les stats. Allez, plus sérieusement, les Monégasques 3e au classement et Montpellier 13e. Et vous êtes d'accord sur ce match, Chris?
Oui, pour moi, avantage à cette équipe de Monaco qui doit se reprendre après cette humiliation au Parc des Princes et cette défaite 5-2. C'est une équipe de Monaco qui reste sur de bonnes performances à domicile, hein, avec des victoires devant Marseille, Metz et Brest. Mais je mise surtout contre Montpellier qui avait vécu un match très compliqué cette semaine sur son match en retard face à Clermont. Donc avec ce match nul 1-0, c'est une équipe de Montpellier qui s'est arrachée pour aller chercher ce point avec un penalty dans les dernières minutes de Savagnier. Mais c'est surtout une équipe de Montpellier qui sera décimée pour ce déplacement. Donc Maxime Estève, le défenseur central, a été expulsé et on va noter les sorties sur blessure de Jordan Ferry et de Saint-Plus, hein, donc c'est 2 éléments importants. On va rajouter aussi que le secteur défensif est décimé avec les absences déjà confirmées de Issiaga Silla et de Christopher Julien. Donc je pense que c'est une équipe de Montpellier qui sera en difficulté dans le secteur défensif. Et quand on connaît la puissance de feu de cette équipe de Monaco, je pense que ça peut être compliqué pour les Héroltais.
Merci Nadine, tu fais de Monaco une base également.
Ouais, c'est quasiment la même analyse avec Montpellier qui n'a pas pu reprendre les points qu'ils devaient prendre face à Clermont. En fait, là, ils ont tout juste compensé le point de pénalité qui leur a été infligé. C'est mieux que rien avec un pénalty en fin de match. Et puis surtout, au lui deux, Monaco est vraiment maître. Avec une seule défaite, c'était vraiment un hold-up de la part des Niçois quand ils se sont déplacés dans ce stade. Sinon, c'est 5 victoires. Donc, une équipe monégasque très à l'aise sur le rocher. Et je les vois battre Montpellier.
Merci. Match numéro 4, toujours en Ligue 1. Ce sera votre 2e prono commun consécutif. C'est Toulouse, 15e, qui accueille Lorient, 16e. Très difficile à lire ce match. Et vous sortez la cartouche tous les deux, Chris.
Ouais, c'est ça, très difficile, hein, pas de risque pour moi. Les Toulousains, c'est 6 matchs sans la moindre victoire en Ligue 1. Le FC Lorient, c'est 4 matchs d'affilée sans le moindre succès. Alors c'est assez étrange du côté de Lorient parce que Lorient est quand même la 5e meilleure attaque de la Ligue 1, hein, mais c'est la plus mauvaise défense avec ses 24 buts encaissés. C'est une équipe de Lorient qui reste quand même sur 2 courtes défaites à l'extérieur, donc à Reims et à Clermont, donc surtout Clermont qui est un concurrent direct pour le maintien. Du côté de Toulouse, je trouve que les Toulousains sont en train de perdre beaucoup d'énergie avec cette Coupe d'Europe. La victoire devant Liverpool et ce nul face à l'Union Saint-Gilloise permet à Toulouse de rêver encore à continuer donc dans cette Coupe d'Europe et notamment en Conference League, hein, sûrement en Conference League. Donc voilà, je me dis que les Toulousains peuvent encore perdre des points. C'est déjà 5 points perdus au Stadium depuis le début de la saison. C'est une défaite devant le Havre, c'est un nul face à Reims. Donc je ne prendrai pas de risque et je me dis que Lorient peut aller chercher des points. Et en plus, je vais quand même rajouter qu'à domicile, Toulouse, c'est 5 nuls sur ses 7 dernières réceptions en Ligue 1. Donc prudence.
Tout pareil, Naïm.
Ouais, tout pareil. C'est vrai que Toulouse a joué hier soir, a laissé beaucoup d'énergie dans le match pour assurer sa qualification. Et puis, ils étaient quand même dominés par cette équipe belge. C'est ça qui était un peu plus inquiétant, hein, sans la maladresse d'Amoura sur une occasion avec le but vide. Je pense qu'ils auraient perdu, mais bon, ils ont assuré l'essentiel. Donc, tant mieux pour eux, ça reste quand même positif. Et puis, Toulouse est aussi la moins bonne des 18 équipes de Ligue 1 sur les 5 derniers matchs, avec seulement 2 points de prix. Donc, c'est très peu et ça va être compliqué pour eux. Alors, ils ont quand même l'avantage de recevoir. Et puis, en face, tu l'as rappelé, Chris, Lorient, c'est une passoire derrière, mais ils sont également capables de marquer beaucoup de buts, comme à Lyon où il y avait eu 3-3. Donc, ça peut également être un match fou au Stadium et il ne faut pas prendre de risques sur ce genre de match très aléatoire.
On va en terminer avec la Ligue 1 et ce cinquième match. C'est Brest qui reçoit Clermont. On verra que Nadim joue les joueurs de l'Ouest, alors que Chris, lui, voit un match peut-être fermé.
Oui, ça, je pense que ça peut être un match fermé. J'ai beaucoup d'interrogations sur la pelouse du stade Francis Leblay. Hein. On va quand même rappeler qu'il y a eu une tempête à Brest ces dernières semaines avec le report du match Brest-Strasbourg. La pelouse a beaucoup souffert, donc je me dis que c'est peut-être un point important pour les Clermontois, hein, qui vont aller à Brest clairement pour défendre. Donc si la pelouse n'est pas forcément dans un très bon état, les Clermontois peuvent en profiter. Donc ça, c'est déjà un point important. Je me dis que ces Bretons, même s'ils ont réussi une très belle performance avec ce succès à Montpellier, les Bretons étaient plutôt en difficulté ces dernières semaines. C'était une série quand même de 5 matchs sans la moindre victoire. Donc voilà, donc je suis prudent. Les Bretons, en plus, ont perdu quelques points à Francis Leblay sur ce début de saison. Il y a eu quand même des nuls face à Rennes et face à Toulouse. Et du côté de Clermont, c'est une équipe qui est plutôt sur une dynamique intéressante. Alors c'est vrai que Clermont est toujours dans la zone rouge, mais c'est quand même seulement 2 défaites là sur les 7 dernières journées. C'était à domicile devant Nice et devant le RC Lens, donc 2 formations qui luttent pour aller chercher une place européenne. À l'extérieur, ils ont quand même décroché 3 nuls, toujours devant des concurrents directs pour le maintien. Et il y a eu un bon nul donc cette semaine aussi à Montpellier. Alors c'est vrai qu'ils se font égaliser dans les dernières minutes, mais c'est quand même un point important dans cette course. Donc voilà, je me dis que Clermont est plutôt en confiance par rapport à Brest. Et dans des conditions qui peuvent être difficiles, les Auvergnats peuvent défendre et assurer peut-être un 0-0.
Je le disais, Nadim, toi tu bases donc les joueurs de l'Ouest.
Ouais, je base les Bretons. Alors, j'ai pas trop de nouvelles de l'état de la pelouse, mais c'est vrai que ça doit pas être exceptionnel. Mais surtout, je trouve que les Bretons, ils ont obtenu une très belle victoire à Montpellier en marquant par 3 fois. Et après une mauvaise série de 5 matchs sans victoire, ça ne peut leur faire que le plus grand bien. Et clairement, alors c'est vrai qu'ils viennent de grappiller un point à Montpellier avec un point qui peut sembler un peu amer puisque la victoire n'était pas loin. Mais surtout, il y aura de la fatigue accumulée suite à ce déplacement, donc un nouveau déplacement en Bretagne. Et c'est pour ça que je vois les Bretons renouer avec la victoire à Francis Leblay.
Allez, on traverse la Manche, direction la Première Ligue avec les Citizens qui reçoivent les Tottenham Hotspur. Tous les deux, vous êtes d'accord sur ce prono parce que vous faites confiance aux Citizens qui sont deuxième, Chris, et Tottenham qui sont cinquième.
Ouais, donc c'est quand même un beau choc dans cette Première Ligue, mais voilà, je mise clairement sur contre cette équipe de Tottenham qui est plutôt en difficulté actuellement. On va rappeler pas mal de blessés, hein, les Bettencourt, Sarr, Richarlison, Maddison, Perisic, Cessegnon, Romero qui est suspendu, donc c'est pas mal d'absence du côté de Tottenham. C'est une formation quand même qui reste sur 3 défaites, hein, donc cette défaite à Chelsea 4-1. Alors on pensait tous que ça serait un accident, mais finalement Tottenham a enchaîné avec une défaite à Wolverhampton 2-1. Et avec cette dernière défaite à domicile devant Aston Villa sur le même score de 2-1. Donc voilà, Tottenham est en difficulté actuellement. Du côté de Manchester City, c'est pas forcément mieux en Première Ligue, hein, parce qu'il y a eu 2 nuls consécutifs avec ce 4-4 à Chelsea et ce 1 but partout devant Liverpool. Mais c'est une équipe quand même qui a retrouvé de la confiance et qui a marqué quand même 3 buts face à Leipzig cette semaine et qui a su remonter les 2 buts que Leipzig avait marqués sur le début de match. C'est Erling Haaland qui a aussi inscrit 6 buts là sur les 5 derniers matchs, donc en 5 derniers matchs de Première Ligue. Donc c'est un garçon qui est en pleine confiance. Doku, je trouve, m'impressionne de plus en plus à chacune de ses sorties. Il a quand même éjecté Grealish, hein, du 11 de départ, donc c'est quand même un point important. Donc je trouve que Manchester City a beaucoup plus de potentiel sur cette rencontre-là, donc avantage pour moi aux Citizens.
Merci Nadim, tu bases également. Est-ce que tu vois les Citizens marcher sur Tottenham ou plutôt passer aux chausse-pieds?
Plutôt marcher, voire même courir. Tu viens d'évoquer Doku, Chris, et c'est vrai que Doku, les défenseurs savent exactement ce qu'il va faire. il le fait et ça n'empêche pas le fait que ça réussisse tout le temps parce qu'il est vraiment trop rapide sur ses appuis. Il est très impressionnant sur son côté gauche. Vraiment très très bonne recrue de la part des Citizens, comme s'ils en manquaient de bons joueurs, donc un de plus. Alors je vois pourquoi je vois City s'imposer. Alors c'est vrai que la machine s'est enrayée du côté de Tottenham et surtout ces trois défaites où ils avaient pourtant réussi le plus dur en football, c'est-à-dire d'ouvrir la marque, mais ils se sont fait à chaque fois renverser, donc c'est un signe de très très grande fébrilité. Il y a de très très nombreuses absences dans cette équipe que tu as rappelé, Chris, donc une équipe très diminuée de Tottenham qui va pouvoir s'appuyer sur le seul Son devant pour faire la différence, mais je pense que ce sera insuffisant. Du côté de City, alors c'est vrai que ça cale un peu contre Chelsea et Liverpool, mais ça reste deux grands noms du football anglais. Et puis City voudra surtout rectifier l'anomalie du manque de réussite face à cette équipe de Tottenham, puisque c'est vraiment la bête noire des Citizens. Les Citizens ont perdu 5 fois lors des 7 dernières confrontations contre Tottenham, donc c'est assez impressionnant. C'est la meilleure équipe de première ligue face à Manchester City. Et on se rappelle également du quart de finale en 2019 où les Tottenham Hotspurs avaient éliminé cette équipe de City en quart de finale. Donc, grosse revanche à prendre du côté des Citizens. Et je vais un peu spoiler, je vais vous proposer quelque chose sur ce match dans les pronobooks.
Ok, parfait, merci. On rechange de championnat pour ce milieu de grille, match numéro 7. On se dirige vers la Liga. C'est un choc entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Le quatrième face au troisième à égalité de points, c'est-à-dire 31 chacun. Tous les deux, vous ne cherchez pas à comprendre, vous couvrez ce match, Chris.
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai, clairement, j'ai un penchant pour le FC Barcelone, mais je suis quand même agréablement surpris du début de saison de l'Atlético Madrid. Alors tu l'as dit, c'est 31 points pour ces deux formations. L'Atlético a quand même un match de retard. Ces deux formations qui se sont qualifiées cette semaine là pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc l'Atlético s'est imposé à Rotterdam devant Feyenoord 3-1. Le Barça s'est imposé à domicile devant le FC Porto 2-1. Dans le championnat d'Espagne, c'est un petit peu plus laborieux actuellement pour le Barça avec un nul dernièrement sur le terrain du Rayo Vallecano ou encore avec de courtes victoires devant Alavés et la Real Sociedad. Il y a eu fin octobre cette défaite à domicile dans le Clasico devant le Real Madrid. Donc c'est une équipe du Barça qui est un petit peu plus en difficulté. Du côté de l'Atlético Madrid, c'est 2 victoires d'affilée à domicile devant Villarreal et Mallorca, mais il y a quand même une défaite inquiétante à Las Palmas. Alors c'est vrai qu'il y a 2 semaines, j'aurais basé l'Atlético Madrid parce que cette équipe-là me plaît au niveau offensif et joue. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais aujourd'hui, le Barça a récupéré quand même beaucoup de joueurs importants. L'infirmerie s'est quand même vidée. Alors c'est vrai qu'il y a toujours Gavi là, qui va être à l'infirmerie pendant de longs mois, mais elle s'est quand même vidée. Donc je me dis que le Barça peut aussi accrocher des points, donc un triple pour ne pas être surpris.
Ouais, et puis l'Atlético, c'est 11 matchs consécutifs sans nul, Nadim.
Ouais, c'est bonne stat que tu relèves. Donc l'Atlético et le Barça, ils comptent le même nombre de points en championnat, 31, mais l'Atlético a un match de moins qui avait été reporté pour cause d'un tempéry. Donc on peut considérer que l'Atlético est devant au classement, ce qui est quand même assez rare à ce stade de la saison. C'est une équipe de l'Atlético complètement métamorphosée hein, depuis cette saison, avec beaucoup de buts marqués et la paire Griezmann-Morata. L'Atlético de Madrid n'a fait que 3 under sur 16 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, seulement 3 matchs avec moins de 3 buts au total. Donc,
c'est le coach qui a fait sa transition, Nadim, ou quoi?
Ah, mais complètement. c'est même incroyable puisque ça fait plus de 10 saisons qu'il applique sa défense et son catenaccio avec son score minimaliste de 1-0, voire 2-0 les jours de fête. Mais bon, tant mieux pour le spectacle que ça ait changé. Et puis donc, moi, plutôt, contrairement à toi, Chris, je vois d'abord l'Atlético en première croix. Mais avec cette équipe du Barça, j'ai vraiment du mal à les saisir. Donc, c'est pour ça que je le triple ici. Et le nul sera bien sûr possible. On nous parle tu nous as parlé du 1-2 possible pour l'Atlético. Mais je ne décocherai pas le nul sur ce match, non.
Toujours en Liga, un match où vous serez une nouvelle fois d'accord. C'est le FC Séville qui est 15e et qui accueille Villarreal 12e. Tu en fais une base, Chris.
Ouais, j'en fais une base. Après, c'est vrai que c'est pas une grande base, mais c'est quand même une équipe du FC Séville qui mériterait d'être plus haut au classement. Je vais rappeler quand même que cette équipe-là n'a plus gagné depuis 7 journées dans le championnat d'Espagne, mais c'est quand même 5 nuls hein, pendant cette période. Il y a eu pas mal de défaites assez frustrantes, hein, notamment cette défaite 1-0 à Barcelone, cette défaite 2-1 là sur le terrain de la Real Sociedad, ce nul un but partout face au Real Madrid, et je pense que le FC Séville aurait peut-être pu même s'imposer. Donc c'est une équipe qui est pas forcément en réussite. Je pense que ça va tourner un petit peu à un moment donné, comme la saison passée le FC Séville avait réussi un début de saison très compliqué et à un moment donné ça avait tourné et les Sévillans enchaînaient les victoires. Je vais rappeler que cette semaine, il y a quand même un jour de récupération de plus du côté des Sévillans. Ils ont joué donc mercredi en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Villarreal a gagné ce jeudi en Europa League devant le Panathinaikos. Mais après, je vais aussi insister sur le fait que Villarreal a quelques absents importants. Jérémy Pino, Denis Suarez, Aïssa Mendy, Alexander Sorloth. Et ça va compenser les absences du côté de Séville. Lamela, Sergio Ramos, Jesús Navas et Loïc Badé. Donc voilà, petit avantage pour moi à Séville qui à un moment donné va changer de dimension et va revenir dans ce championnat d'Espagne.
Tu connais Dim qui voit le sous-marin jaune couler définitivement.
Oui, j'espère parce que c'est aussi un match équilibré et j'ai exactement l'argumentation de Chris avec des scénarios qui sont un peu cruels pour le FC Séville. On l'a vu en Ligue des Champions avec ce 2-0 jusqu'à l'expulsion d'Ocampos. Et même en championnat, beaucoup de belles prestations. Il me semble que c'était contre le Real ou le Barça où ils menaient, ils se sont fait égaliser contre le Real. Voilà, donc ça va finir par passer. La roue va finir par tourner pour ce FC Séville et je les base.
Allez, on va en terminer avec la Liga. Ça sera le match numéro 9. C'est Almeria, bon dernier du classement, qui reçoit le Betis Séville. Une petite stat sur Almeria, c'est 17 matchs. Sans victoire, Chris, la raison, une des raisons, j'imagine, parmi tant d'autres, pour lesquelles tu bases le Betis.
Ouais, c'est ça, j'ai quasiment plus rien à dire quand tu annonces cette stat-là. C'est assez impressionnant. On se rappelle quand même que la saison passée, Almeria avait réussi de bonnes performances à domicile hein, et avait gagné son maintien grâce à des résultats donc sur son terrain. Mais là, dans le championnat d'Espagne, là, Almeria, c'est une série actuelle de 6 défaites. Cette formation a surtout perdu des points devant des concurrents directs pour le maintien. Il y a eu des défaites à Alavés, à Retafe, mais aussi à domicile devant la Las Palmas, hein, une formation qui enfin un promu en Liga. Sur ce début de saison, le Real Madrid, Rayo Vallecano, le Celta Vigo, Las Palmas et la Real Sociedad se sont imposés au Power Stadium d'Almeria. Donc voilà, je me dis que le Betis peut s'imposer. Je pense qu'il n'y aura pas trop de fatigue par rapport à ce match de Coupe d'Europe de jeudi du Betis, parce qu'il y avait seulement 3 titulaires qui étaient présents dans le 11 de départ sur le match face à Prague, donc avec cette défaite 1-0. Dans le championnat d'Espagne, le Betis est invaincu depuis 9 journées. Il y a eu quand même pas mal de victoires à domicile devant Las Palmas, Mallorca et Osasuna. Alors c'est vrai qu'à l'extérieur, le Betis, c'est pas une formation très performante, hein, parce que là, il reste actuellement sur 4 nuls. Mais je me dis qu'avec le trio Fekir, William José et Borja Iglesias, je pense que le Betis peut s'imposer chez la Lanterne Rouge.
Ouais, Nadim, joli double 1-2, probablement très spécu.
Probablement, pardon ?
Très spécu.
Oui, très spécu. Et puis déjà, quand je vois l'équipe d'Almeria, ça me fait plaisir. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui fait pire que mon Olympique Lyonnais.
Donc, ah oui, elle a trois points.
Exactement. Donc, ça fait plaisir. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour cocher cette équipe d'Almeria, même si elle avait mené 3-0 en championnat contre Granada avant de se faire remonter pour finir sur le score de 3 buts partout. Donc, avec ce style d'équipe maintenant qui n'a absolument plus rien à perdre, je préfère tenter le quitte ou double. En face, c'est le Betis Séville qui n'a pas perdu depuis 9 matchs en Liga déjà, donc c'est une très très belle série. Il y a le retour de Nabil Fekir qui était titulaire hier soir, mais il a toujours 5 à 7 kilos de trop. Je pense qu'il va lui falloir encore un ou deux mois pour revenir à son poids de forme. Voilà, ça peut être un jour sans, avec surtout la fatigue du match d'hier ou le déplacement. C'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas trop fatigués parce qu'ils ont joué tranquille, mais ça se tente, une équipe comme Almeria peut être dans un bon jour et tenter le tout pour le tout.
Merci. Le 10e match est le Trublion d'Agri, puisqu'il s'agira de l'unique match de Bundesliga entre le Bayern Leverkusen, qui est leader et qui accueille donc le Borussia Dortmund, qui lui est 4e. On peut noter que Leverkusen, Chris, c'est 8 matchs consécutifs qui s'est soldé par une victoire.
Ouais, c'est ça. Hein, j'ai plus de triple, donc malheureusement, ce match allemand, je peux pas le couvrir. Donc, il faut faire un choix. Tu l'as dit, hein, c'est une équipe du Bayer Leverkusen qui est en pleine réussite dans le championnat d'Allemagne. Hein, c'est 11 victoires et 1 nul en 12 journées. Ce jeudi, ils ont joué en Coupe d'Europe avec une victoire en Europa League 2-0. Du côté de Dortmund, c'est une victoire ce mardi en Ligue des Champions à Milan 3-1. Donc, je me dis peut-être qu'il y aura un petit peu un manque de fraîcheur du côté du Bayer Leverkusen. Il y a eu quand même un déplacement très lointain, hein, donc un long voyage en Suède. Donc, voilà, je me dis qu'on peut se tourner vers Dortmund. Dortmund, c'est peut-être la dernière chance de rêver encore du titre de champion, parce qu'il y a quand même 10 points de retard pour Dortmund sur le Bayer Leverkusen. Donc voilà, si Dortmund veut encore rêver, il faut aller prendre des points là-bas. Je vais rappeler quand même sur les 10 dernières confrontations, Dortmund, c'est 7 victoires. Donc petit avantage pour moi à Dortmund, même si c'est vraiment un match qui se triple.
Ouais, une stat que ne veut pas retenir Nadine, lui, il voit plutôt la continuité du côté du Bayern.
Ouais, je veux la continuité. Puis c'est mon pari long terme en Bundesliga où j'ai mis Leverkusen champion, mais c'est pas vraiment ça la raison. Aujourd'hui, Leverkusen, c'est la meilleure équipe d'Europe, tout championnat confondu, avec juste un nul et que des victoires, alors qu'ils sont aussi engagés. Alors c'est en Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, mais tout de même, hier, alors ça tenait un déplacement tranquille, mais qui n'a pu faire que du bien à cette équipe, avec Boniface qui a renoué avec le chemin défilé, mais surtout le Tchèque Patrick Schick qui lui aussi a renoué avec le chemin défilé après de longues blessures et une période assez longue pour retrouver justement son efficacité offensive. Donc un atout de plus offensivement pour l'arsenal offensif de cette équipe du Bayern qui ne sera pas de trop parce que les marsupiaux justement vont mieux. Alors ils vont surtout mieux en Ligue des Champions avec 3 victoires de rang. En Bundesliga, c'est un peu moins bien. Ils n'ont pris qu'un point sur les 2 derniers déplacements. C'était à Francfort et à Stuttgart. Donc un peu plus en difficulté en Bundesliga, et c'est là-dessus que je compte, parce que c'est quand même 2 belles équipes en ce moment.
Merci, c'est déjà le 11e match en retour en Première Ligue entre Chelsea, et une étonnante 10e place qui reçoit Brighton Hove. Alors du côté de Nadim, on sortira le triple pour ce match, tandis que Chris, de son côté, lui, base Chelsea. J'ai juste une petite stat concernant Brighton Hove, c'est 29 matchs consécutifs avec but marqué. J'ai trouvé ça faramineux.
Ouais, c'est assez impressionnant. Hein. C'est une équipe de Brighton qui nous avait surpris la saison passée, hein, qui avait réussi un très très bon championnat. Mais je les trouve quand même moins impressionnants que la saison passée et surtout moins surprenants. C'est une seule victoire là sur les 7 dernières journées de Première Ligue. Alors Brighton vient de s'imposer à Nottingham Forest 3-2, mais juste avant il y a eu quand même 3 nuls devant des équipes qui luttent pour leur maintien. Hein, donc c'est à domicile devant Fulham et Sheffield United, et c'est un nul à Goodison Park devant Everton. Par contre, je trouve que Chelsea, alors si même si Chelsea est aujourd'hui 10e en Première Ligue, je trouve que c'est une formation qui progresse, qui va beaucoup mieux, à l'image de sa victoire quand même à Tottenham 4-1, de son très bon nul face à Manchester City, 4 buts partout. Alors on va me dire que Chelsea vient de prendre un 4-1 à St. James Park, mais il y a de grandes équipes européennes qui ont pris aussi 4-1 cette saison à St. James Park, donc voilà, je me dis que ça peut être un accident, et Chelsea a largement les moyens de s'imposer devant cette équipe de Brighton, qui a joué quand même ce jeudi en Coupe d'Europe. C'était un déplacement à Athènes, donc un long déplacement, donc avantage aux Blues.
Merci. Troisième et dernier triple pour toi, Nadim.
Ouais, et je partage ton avis, Chris. C'est vrai que cette équipe de Brighton est un peu moins bonne que la saison dernière. Alors, il y a 2 raisons. Déjà, c'est très difficile de confirmer une saison exceptionnelle. Et puis, ils sont aussi engagés en Europa League. Donc, ils jouent sur 2 tableaux. Donc, il faut digérer tout ça. Et la dernière raison, c'est qu'en ce moment, ils sont décimés par les blessures, tout comme Chelsea. Mais du côté de Brighton, c'est quand même Ansu Fati, Webster, Solly March, Julio Enciso, Danny Welbeck, Lamptey, Estupiñán, Daoud et Lewis Dunk. Rien que ça. Alors, du côté de Chelsea, il y a au moins autant de blessés ou de suspendus. Il y a peut-être le retour de Malo Gusto, mais c'est très incertain. Et cette équipe de Chelsea, elle s'était un peu rassurée, je trouve, avec sa victoire à Tottenham, même s'ils étaient à 11-9, quasiment la moitié du match. Ils sont retombés dans leur travers à St. James Park. Ils ont vraiment pris l'eau. La défense est fébrile. On voit des garçons comme Thiago Silva faire des grosses boulettes. C'est pas dans son habitude. Donc attention à ce match-là. Et Brighton est devant au classement en Première Ligue. Donc pour moi, le triple est obligatoire.
Justement, la Première Ligue, on y reste avec un match entre les Reds de Liverpool qui accueillent Fulham. Vous êtes d'accord une nouvelle fois sur ce match. Il faudra noter qu'au total, il y a 6 pronos communs dans cette grille. Liverpool, 3e au classement. Fulham, 14e. Chris, tu en fais une base.
Oui, pour moi c'est une base, hein. Tous les feux sont ouverts pour ces Reds, hein, qui sont revenus dans le haut du tableau, pardon, de la Première Ligue, hein. Donc la saison passée ça avait été un petit peu plus compliqué. Là cette saison, Liverpool est présent et au rendez-vous. Liverpool s'est même qualifié là pour les 8e de finale de l'Europa League, donc ça c'est plutôt important au niveau de la confiance. C'est une formation qui est impressionnante à Anfield Road, hein. C'est 6 victoires sur leurs 6 matchs de Première Ligue, c'est une moyenne de quasiment 3 buts marqués par match. Ils restent quand même sur des succès devant Brentford et Nottingham Forest sur le score de 3-0. Et du côté de Fulham, hein, les Cottagers, c'est vrai, ils viennent de s'imposer devant Wolverhampton, mais c'est une formation qui a quand même souffert à l'extérieur face à Decador de la Première Ligue. C'est une défaite 2-0 à Tottenham, 5-0 à Manchester City, 3-1 à Aston Villa. Donc pour moi, avantage à Liverpool et à son trio magique Gakpo, Nunez et Mohamed Salah.
Nadim, as-tu quelque chose à rajouter?
Ouais. Quoi tu... Ouais. Ben oui, un peu, comme toujours. Donc Liverpool, c'est vrai qu'à domicile à Anfield, ils ont tout gagné cette saison, toute compétition confondue. Et surtout par rapport au début de saison, je trouve qu'il y a du mieux dans le jeu. Il y a toujours les résultats, mais le jeu est beaucoup plus fluide. Les quatre de devant, c'est vraiment des tueurs dans la surface. Il leur faut pas 36 occasions, contrairement à d'autres. Et du côté de Fulham, vraiment là, le départ de Mitrovic a fait beaucoup de mal à cette équipe. J'ai regardé le match de lundi contre Wolverhampton. Alors certes, il y a eu la victoire, mais en dehors du Brésilien Willian, c'est vraiment très pauvre. Raúl Jiménez n'a pas encore trouvé ses marques dans cette équipe. Ils sont pour moi un cran en dessous. Ils peuvent être heureux d'avoir déjà 15 points au classement et qu'en Angleterre, les derniers ont 4 et 5 points, contrairement à la Ligue 1 où pour être non relégable, il faut en avoir 12. Donc là-bas, ça se joue beaucoup plus bas. Et heureusement pour Fulham, parce que sinon, la charrette n'aurait pas été loin.
On va terminer avec deux matchs de Serie A. Le 13e, ce sera Sassuolo qui accueille l'AS Rome. Nadib, on verra, ne coche pas les Romains sur ce match. Alors que Chris, lui, joue un double N2. Une petite stat juste avant Sassuolo, c'est 21 matchs avec but encaissé consécutivement, Chris.
Ouais, donc ça se fait l'OAS Rome. Si on regarde les deux effectifs, les ambitions, le potentiel offensif de l'AS Rome, le classement, c'est difficile de ne pas baser les Romains. Mais c'est vrai que ça se fait l'OAS, c'est la bête noire des parieurs, c'est ma bête noire. C'est une équipe qui est capable de tout, qui cette saison a quand même pris 3 points devant la Juventus de Turin, 3 points sur le terrain de l'Inter Milan. Donc c'est assez inquiétant avant la réception de l'AS Rome, mais voilà, Sassuolo c'est aussi des défaites à domicile devant l'Atalanta Bergame, Monza et la Lazio de Rome. Donc petit avantage quand même, donc c'est pour ça aussi que je laisse traîner le nul, hein, ce Sassuolo est par moment difficile à manœuvrer, mais petit avantage quand même à l'AS Rome qui peut quand même aller chercher 3 points dans ce déplacement. On va rappeler que l'AS Rome reste sur un bon nul dans le derby face à la Lazio, sur une victoire face à l'Udinese. Alors c'est vrai que c'est les dernières victoires à domicile sont souvent à l'arraché, hein, des Romains, mais c'est quand même des victoires qui sont importantes et qui sont précieuses. Cette semaine, enfin, on va quand même rappeler que le potentiel offensif de l'AS Rome est là. Il y a le duo Dybala-Lukaku qui, je trouve, se trouve de plus en plus sur le terrain. Donc, pour moi, un léger avantage. Alors, c'est vrai qu'il y a ce match de jeudi en Coupe d'Europe et ce nul à Genève. Mais voilà, je pense que l'AS Rome a un effectif pour aller chercher des points à Sassuolo. En plus, Lukaku, a retrouvé le chemin défilé cette semaine. Donc, léger avantage. Maintenant, je me couvre avec ce nul parce que Sassuolo m'a souvent planté dans mes paris, que ce soit au loto-foot ou dans les pronos.
Ouais, déplacement cette semaine en Coupe d'Europe qui a forcément joué son rôle dans le choix de Nadim de ne pas cocher les Romains.
Ouais, qui a joué son rôle et puis surtout la manière lors des dernières victoires de ces Romains, surtout à domicile, avec des victoires très très tardives, voire miraculeuses. Certaines fois, donc gros potentiel offensif dans cette équipe, ça je le reconnais complètement. Après, le milieu est assez pauvre et la défense également. Il y aura toujours l'absence de Smalling derrière, notamment, qui fait vraiment défaut à cette défense romaine. Et puis Sassuolo, après une très très longue mauvaise série, a renoué avec la victoire. Alors même si c'était à Empoli et puis en ayant encaissé 3 buts, ils se sont quand même imposés pour se rassurer. Et sur l'historique, je ne sais pas si vous l'avez consulté, lors des 5 dernières réceptions de cette AS Roma, Sassuolo n'a pas perdu un seul match, c'est 4 nuls et 1 victoire. Donc méfiance ici.
Merci Nadim. Allez, je le disais, on termine cette grille. Donc c'est match numéro 14, toujours en restant en Serie A. Et c'est une superbe affiche entre Naples et l'Inter de Milan. Naples, 4e au classement, l'Inter de Milan leader. Et pourtant, Chris, tu ne coches pas l'Inter sur ce match.
Ouais, moi je suis parti du côté des Napolitains, tout simplement parce que voilà, c'est une nouvelle saison qui a débuté avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Walter Mazzarri. Même si la victoire à Bergame a été plutôt laborieuse, mais c'est 3 points quand même qui ont fait énormément de bien à cette équipe napolitaine. Alors c'est vrai que ce mercredi, Naples a été battu à Madrid 4-2, mais la défaite n'est pas forcément inquiétante, sachant que Naples jouera sa place en 8e de finale lors de la réception de Braga. Donc c'est une équipe napolitaine quand même qui a retrouvé de la confiance, qui a un gros potentiel, qui a toujours un secteur offensif de grande qualité. Donc je pense que ces Napolitains peuvent perturber l'Inter Milan. L'Inter reste actuellement sur 2 nuls. Il y a eu ce nul à Turin en championnat et ce nul à Lisbonne en Ligue des Champions. Il y a eu quand même 3 buts encaissés à Lisbonne. Donc ça, c'est un petit peu plus inquiétant du côté de l'Inter. Et je me dis que comme face à la Juve, l'Inter pourrait se contenter d'un point sur ce gros match. Donc voilà, léger avantage aux Napolitains, mais une petite preuve quand même sur le nul.
Ouais, Nadim pas d'accord puisqu'il coche l'Internazionale.
En base, tout à fait, oui, parce que je pense que le Napoli n'est absolument pas guéri de ses maux. Ils se sont inclinés à Madrid face à une équipe du Real qui n'avait pas grande pression et surtout qui avait beaucoup d'absence dans ses rangs. Donc, ils sont inclinés malgré des faits qui leur sont favorables au niveau des effectifs. En plus, le Napoli n'a gagné aucun de ses 5 derniers matchs à domicile, même si c'est vrai, ils ont rencontré quelques grosses cylindrées comme le Real ou l'AC Milan, mais ils ont aussi perdu contre des équipes comme Empoli ou fait nul contre l'Union Berlin. Donc, ça fait un peu tâche du côté du Napoli. Et puis l'Inter, alors c'est vrai qu'ils ont été menés 3-0 à la mi-temps, mais quand on a vu la compo, ça n'a pas plaisanté du côté de l'Inter avec une vraie équipe bis. Donc vraiment choix très surprenant. Ils ont failli faire une folle remontada en deuxième mi-temps avec juste 2-3 changements. Je pense que là, ils seront concernés par ce match qui est décisif pour la lutte pour le titre, notamment avec la Juve qui est dans les pattes de l'Inter. Et c'est pour ça que les bases dans ce déplacement.
Cristiano, merci pour vos analyses. C'était donc l'analyse pour et surtout les pronos du Loto Foot 15 numéro 71 à valider dimanche avant 14h55 et doté d'un pactole de 500 000 euros. On débriefe tout ça vendredi prochain dans la prochaine émission. Toujours pareil, ce sera à 13h en direct. Le chapitre suivant, ce sont votre sélection book du week-end. On garde toujours le même ordre et Chris va nous parler de sa sélection.
Voilà, donc un petit peu de tout pour moi sur cette sélection Pronobook. Donc déjà un buteur niveau foot. Donc samedi à 17h, il y a Lazio de Rome qui reçoit Cagliari. Je pense que ça sera une formalité pour cette équipe de la Lazio qui a validé son billet là pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à un doublé de Ciro Immobile. Alors c'est vrai qu'il ne réalise pas un grand début de saison, mais c'est quand même le meilleur buteur de la Lazio avec 4 buts marqués en Serie A. Il a inscrit 5 buts là sur ses 6 derniers matchs. Donc je me dis que cette cote à 2,30 est plutôt sympa pour un garçon qui a, je pense, retrouvé un peu de confiance avec ce match de Ligue des Champions. Ensuite, on a dans la nuit de samedi à dimanche, donc un match de NBA entre Orlando et Washington. Orlando, c'est la surprise de ce début de saison, hein, donc deuxième de la conférence Est. C'est une formation qui n'a pas de grandes stars, mais qui a de très bons joueurs, de très bons basketteurs. C'est une équipe qui est en pleine réussite, qui vient d'aligner 8 victoires d'affilée, qui vient de s'imposer devant Washington 139-120. Alors la particularité de la NBA, c'est qu'on peut jouer la même formation sur 2 matchs d'affilée. Donc là, Orlando va recevoir une nouvelle fois Washington. Donc je vois encore une victoire d'Orlando et je me dis que Franz Wagner, l'international allemand, peut encore une fois briller. Sur son premier match face à Washington, il a inscrit 31 points et 6 rebonds. Dernièrement, il avait aussi inscrit 30 points et 7 rebonds devant Charlotte. Donc un total point plus rebond à plus de 34,5, c'est coté à 2,95. Donc je pense que c'est plutôt intéressant sur cette deuxième rencontre. Ensuite, on a le top 14, donc c'est dimanche soir, c'est le classico au rugby, hein, donc Stade Français, Stade Toulousain. Je vois une victoire des Toulousains avec au moins 3 points d'avance, côté à 2,25. Pourquoi ? Parce que je trouve que la dynamique de Toulouse est plutôt intéressante en ce moment. Ils retrouvent pas mal d'internationaux au fur et à mesure de leur rencontre. C'est une équipe qui vient de s'imposer 31-10 devant Clermont. Mais c'est surtout une équipe du Stade Français qui est malade, qui reste sur 2 revers devant le Racing et à Pau. C'est une équipe qui est en pleine crise interne. Je vais juste rappeler qu'après le match face à Pau et après un stage dans les Pyrénées, plusieurs joueurs et 2 membres du staff ont effectué une petite sortie nocturne, sans l'autorisation des coachs. Et cette sortie nocturne s'est clôturée par une belle bagarre. Voilà, une grosse bagarre a éclaté avec pas mal de joueurs et pas mal de membres du staff aussi de Pau. Donc beaucoup de joueurs risquent d'être suspendus par le club. Donc je pense que les Stades Français vont être handicapés sur ce match-là. Donc ma préférence va bien sûr du côté de Toulouse avec au moins 3 points d'avance. J'ai hésité à mettre un petit peu plus, mais 3 points c'est déjà intéressant pour doubler la mise. Et ensuite, en fun, je vais me tourner dimanche à 17h avec le Lille qui reçoit Metz. Voilà, Jonathan David a retrouvé le chemin défilé avec un beau but face à Lyon. Je me dis que ce garçon peut enchaîner. La trêve internationale lui avait fait du bien parce qu'il avait trouvé aussi le chemin défilé avec le Canada. Donc un doublé de Jonathan David, c'est coté à 6. Et je pense que si Lille trouve l'ouverture assez rapidement face à cette équipe de Metz, je pense que les Lillois peuvent s'imposer assez facilement.
Merci Chris pour ta sélection book du week-end. Juste avant de donner la parole à Nadim, on vous rappelle que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Nadim, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce week-end ?
Alors, à votre grande surprise et à la mienne, il n'y a aucun buteur dans mes choix. Je vais essayer de changer de stratégie parce que c'est un peu catastrophique en ce moment au niveau des buteurs. Donc, je vais tenter du 1 et 2 et j'aime bien l'équipe d'Everton qui a remporté 3 de ses 4 derniers déplacements en Première Ligue. Alors, c'est vrai qu'ils ont pris une grosse pénalité de points par rapport à des sanctions de la Ligue anglaise. Mais je trouve que la victoire à 2,60 sur la pelouse de Nottingham Forest est intéressante. Alors Everton, c'est vrai qu'ils ont pris une petite raclée contre Man U, mais ce n'était pas mérité dans le scénario. Je pense qu'ici, ils vont un peu renouer avec la victoire, avec Calvert-Lewin devant, probablement buteur, si vous souhaitez quand même un buteur. Mais ici, je préfère le 1-2. Un autre prono de Première Ligue. Alors cette fois, c'est Newcastle qui s'impose contre les Red Devils. Et il faut que les deux équipes marquent. C'est une cote de 3,30. Alors pourquoi? On a vu la défense de Manchester United, d'ailleurs on n'en a pas parlé dans le débrief, c'est vraiment catastrophique, ils avaient perdu deux matchs de Ligue des Champions, 4-3, et ça a failli faire encore 4-3 à Galatasaray, mais ils sont arrêtés à 3-0 partout. Donc une défense qui prend souvent l'eau en déplacement, et puis là ils vont avoir un adversaire de taille qui est Newcastle qui reste, alors hormis le hold-up presque parfait au Parc des Princes, il reste sur un 4-1 contre Chelsea en championnat. Donc, ils se sont imposés et les deux équipes avaient marqué. J'espère le même scénario contre ces Red Devils pour que le pari passe avec une belle cote au-dessus de 3. Et puis, enfin, j'ai vu passer dans le chat des questions sur les avis sur Lens-Lyon. Vous avez le mien ici. Alors, même si Eli Wahi sera absent et même si Lens sort d'une grosse tôle en Ligue des Champions, il vaut mieux les jouer ces matchs de Ligue des Champions que les regarder à la télé. Lens ne va pas douter pour autant. Ils sont déjà à une place qu'ils n'espéraient pas dans cette Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont renouer avec la victoire et enchaîner à Bollard comme ils avaient battu Nantes dernièrement. Je pense qu'ils vont profiter du fait du gros flou qu'il y a autour de cet Olympique Lyonnais avec un coach intérimaire et beaucoup de noms dont on parle pour remplacer Fabio Grosso. C'est pas les meilleures conditions pour préparer un match de championnat que d'être dans cette incertitude. Ça va être le troisième entraîneur différent que les Lyonnais connaîtront en moins de 4 mois. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'OL. En tout cas, pas depuis que je les suis, depuis 1986. Donc, attention à ce déplacement et l'efficacité lensoise risque de faire très mal à cet Olympique Lyonnais-là.
Et enfin, tu serais favorable à un retour de Genesio, toi, sur ce
ça pourrait être très drôle, mais honnêtement, ce serait le choix le plus judicieux. Quelqu'un qui connaît la maison, qui parle déjà la langue locale, parce qu'un coach étranger, si on parle de Tudor ou d'un autre, je pense qu'il y a un temps d'acclimatation et il sera moins accepté que Genesio, juste à voir la réaction du public. Mais je pense qu'on est preneur de n'importe qui du côté de l'OL. Mais effectivement, ça peut être drôle si Genesio revient et si c'est le sauveur. Il prendra peut-être d'une certaine façon sa revanche.
Parce qu'il avait été bien sifflé quand même quand il est parti. Hein.
Ah oui, tout à fait. Mais je crois que là, les supporters ont compris l'urgence et un supporter peut très vite retourner sa veste de ouais. Ce que je vois depuis quelques années dans le football.
Et ça tombe, ça va être le héros. Hein, et là,
mais tout à fait, ça peut être le sauveur en fin de saison avec peut-être même mieux qu'une place de non-relégable. Et on ne sait jamais, hein, une belle série de 4-5 victoires et vu que le championnat est très très serré en Ligue 1, quand je le regarde, je me dis vraiment, à part les 3-4 premiers, tout se vaut. On ne sait jamais. Et puis Marseille qui se cherche encore, Rennes qui n'a pas encore renoué avec les séries. On verra bien et on attend l'officialisation du nouveau coach. Donc je verrai dans quel sens je pousse. Tout ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas une saison où Lyon termine juste barragiste et se maintient ou à l'avant-dernière place devant le barragiste. Enfin, du côté du gros choc en Première Ligue, qui n'en est pas vraiment un, puisque les books cotent Manchester City à 1,25 contre leur bête noire de Tottenham. Et on a vu dans notre analyse l'autofoot pourquoi, avec toutes les absences du côté des Spurs et la mauvaise série en cours. Alors là, pour chercher une grosse cote, il faut pousser le bouchon assez loin. Je l'ai poussé assez loin avec une victoire des Citizens par tout autre score. Donc ça, c'est un pari à la FDJ notamment. Il faut qu'il y ait plus de 7 buts dans le match, hormis le 4-3 qui ne compte pas. Mais un score comme 5-2, 6-1 ou 7-0 sont nécessaires pour faire passer ce pari. Mais ça peut être un match fou. City a fait 3-2 contre Leipzig en championnat. C'est une équipe qui peut vraiment marquer beaucoup de buts. Et pourquoi pas en encaisser un ou deux. Donc à tenter en fun à 10-50 en cote.
Tiens, éclaire un peu ma lanterne, Nadim. Pourquoi le 4-3 ne compterait pas sur le...
Alors, en fait, c'est pas qu'il ne compte pas, c'est que dans la liste des scores proposés dans Gagne sur autre score, le 4-3 est présent dans une des options. D'accord. Donc, c'est pas Gagne avec 7 buts dans le match, c'est Gagne par autre score et les autres choix contiennent le 4-3. Je vais reprendre la liste des autres choix et je le redirai juste après parce que je n'ai pas devant moi.
D'accord, non, mais c'est bien, tu as précisé, je te remercie. On va clôturer ces analyses en vous remerciant, messieurs, Chris et nous, pour votre expertise une nouvelle fois. C'est déjà l'heure de la dernière partie de l'émission. Il s'agit des questions et des réponses. Questions que Seb a synthétisées. Je vais pouvoir commencer avec la première. Elle est de Prosper 29290. Pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat. Nadim, tu voulais apporter la précision? Tu as regardé pour les...
Alors, c'était que en ligne, donc il faut que j'aille en ligne. Il faut
encore un peu de temps. C'est pas grave.
Il faut encore un peu de temps.
C'est pas grave. Allez, la première question, donc je disais de Prosper. Même si vous n'êtes pas Winamax, mais vous êtes probablement en connexion avec eux, Winamax propose des grilles à 12 matchs le week-end, mais jamais en semaine, alors qu'il propose des grilles 7 pratiquement tous les jours. Savez-vous pourquoi? Je te laisse répondre, Nadim.
Ouais, alors je n'ai pas la réponse de la part de Winamax, mais j'ai toujours mon
petit
avis. Ouais. Tout à fait, exactement. Mon petit avis. Déjà, ils ont du mal à avoir des enjeux sur les 12 qui ne sont intéressants que lorsqu'il y a deux ou trois grilles de suite qui n'ont pas pris preneur pour avoir un pactole de 60 000 euros ou 70 000, sachant que la FDJ, de son côté, propose des pactoles minimum à 150 000 euros. Donc, si multiplier les grilles, ça diluerait encore plus les enjeux et ils ne veulent pas cette dilution des enjeux, justement, d'après moi. Il faut tenter de leur demander directement, mais à part ça, je ne vois pas trop d'explications.
Merci. Question de Prince Jumwa. Bonjour à tous. Je comprends mieux vos explications. Une N-1, cela veut dire que je dois indiquer 24 grilles dans mon choix. Et pour les préférences, pouvez-vous donner un exemple, car je ne comprends pas comment cela fonctionne. Je suis novice, merci beaucoup. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de te rendre sur le site www.pronosoft.com, rubrique l'autofoot. Ensuite, tu vas dans la partie logiciel, et là, tu vas avoir accès à un tas de vidéos qui t'expliquent petit à petit exactement ce que tu viens de demander. Alors, N-1, ça ne veut pas dire 24 grilles, ça veut dire que tu vas jouer et tenter le 13 sur 14 sans t'enlever la possibilité de faire le sans faute, c'est-à-dire le 14 sur 14, mais d'un coût de 216 euros, c'est-à-dire la formule 3 triple 3 double qu'on vous a proposé tout à l'heure est à 216 euros. Si tu la joues en N-1, donc en visant le 13 sur 14, là, il t'en coûtera 24 euros. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Nadine.
Oui, c'est ça.
J'ai eu un petit problème de siège. Hop, voilà. Je pense que ça s'est vu à l'écran. Je me suis affaissé, j'ai eu un petit problème de siège, mais c'est pas bien. Je te laisse compléter, Nadine.
Oui, tout à fait. Donc, les 24 grilles, c'est parce qu'on rappelle souvent que c'est 24 euros en 3 triples, 3 doubles. Donc, le système qu'on vous propose, c'est 24 grilles et c'est jamais 24 grilles de ton choix, mais c'est le choix du logiciel et le logiciel fait un choix de combinatoire pour justement couvrir les combinaisons de la meilleure façon possible pour que ces 24 grilles te donnent un 13 sur 14 sur les 216 que tu aurais dû jouer.
Question de 40 Newf. J'utilise depuis peu de temps PronoFoot Expert Plus et je ne trouve pas la possibilité de récupérer automatiquement les résultats définitifs pour les comparer avec mes pronos, sauf d'utiliser le menu tester. Est-ce la bonne méthode?
Alors, le menu tester, je pense qu'il ne va pas te pré-remplir les résultats, mais moi, ce que je fais, c'est je fais live score, ça te teste automatiquement tout ton jeu et après, il y a le bouton test qui te reprend la grille en live du live score. Donc, quand les matchs sont terminés, live score, ça met exactement ton test et pour avoir le détail, tu appuies sur le bouton tester.
C'est ça. Question de Sébastien. Un petit avis sur le match de ce soir, Reims-Strasbourg et aussi, est-ce que vous voyez la Juve gagner?
Moi, si j'ai un avis déjà sur la Juve, c'est un match qui peut être compliqué à Monza. On se rappelle quand même que la saison passée, Monza avait réussi une bonne saison. Monza avait battu pas mal de formations, pas mal de cadors de la Serie A. Je me rappelle que la Juve a été battue. L'Inter, Naples avaient perdu des points aussi sur le terrain de la Monza. Et sur ce début de saison, Monza est aussi invaincu à domicile. Hein, donc franchement, prudence du côté de la Juve, enfin, en tout cas pour ma part. Quoi.
Nadim, un avis?
J'ai pas vraiment analysé celui-là. Je mettrais peut-être un N2 si c'est pour un loto-foot, mais sinon la UV.
Question d'Aurélien. Salut la team. Un avis sur Reims, encore une fois. Depuis la perte de Balogun, l'équipe a beaucoup de mal, comme Strasbourg après la perte de Diallo. Peuvent-ils inverser la tendance ou la saison est cuite? Merci.
La saison est cuite, quand on est cinquième, la saison n'est pas cuite déjà. Je pense que ils sont quand même.
Vous voulez peut-être parler par rapport à la Ligue des Champions.
Peut-être. Je pense que quand même le début de saison est plutôt intéressant du côté des Rémois. Et là, je crois qu'ils reçoivent Nantes ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je pense qu'il y a un
Strasbourg,
match.
Strasbourg. Mais Strasbourg. Très bonne recrue avec le franco-maltais Teddy Thomas, on en a parlé. Alors, ce n'est pas Balogun, évidemment, ce n'est pas sa puissance. Et puis, il y a toujours Ito, très très belle équipe qui, qui conforte sa position après la dernière saison, et c'est plutôt surprenant qu'il s'installe comme ça dans le haut du classement.
Question Diclas, bonjour à tous et merci. J'ai pris l'abonnement sur l'application AN2, très rentable pour moi dès la première utilisation. Ben, parfait. Ça me permet de parier moins. Comment utiliser le système de préférence et comment bénéficier des avantages sur le site internet, car on ne peut pas s'identifier. Merci.
Ouais.
Ben, les préférences, on peut renvoyer sur les vidéos aussi, Nedim. Hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a les préférences, on en parle, que ce soit sur le site Pronosoft, dans la rubrique Autofoot logiciel, il y a des aides, il y a aussi les vidéos qui sont en ligne sur le site, il y a le forum qui est sur le site Pronosoft, Pronofoot Expert Plus, il y a un topic qui explique les préférences, et il y a une vidéo démo live sur cette chaîne YouTube qui dure une heure et qui parle des préférences pendant 20 minutes. Donc, tu as vraiment le choix. Et si vraiment tu ne trouves pas réponse à tes questions, tu nous envoies un message au contact Pronosoft et on t'aiguillera.
Ouais, après, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire quand il parle de comment bénéficier des avantages sur le site internet quand on ne peut pas s'identifier. Si tu peux préciser, ou alors si tu as une idée, Nadim.
Non, là, il faut qu'il précise.
D'accord, merci. Nouvelle question de Prince Jumwa. Pourquoi Chris et nous ne fusionnent pas leurs grilles respectives? Parce que ça ferait 14 strips, non?
Oui, tout à fait. On a déjà parlé pas mal de fois. Je rappelle, je prends toujours cet exemple. Si Raph donnait une grille simple qu'avec des 1, Chris qu'avec des nuls et moi-même qu'avec des 2, notre fusion ferait 14 strips. Donc, quand on n'est pas d'accord sur les pronos, ça monte très vite et on va se retrouver avec un 6 triples, 5 doubles ou même plus. Des fois, là, il y a un match, tu as par exemple un N sur le Napoli. Moi, j'ai le 2, donc ça fait un triple. Donc, ça monte très, très vite. Et je pense qu'une grille autofoot, il faut aller jusqu'au bout de ses choix. Ça n'empêche pas de consulter l'avis d'autres personnes pour le nuancer. Mais moi, j'aime bien quand une seule personne finalise un jeu parce que sinon, on veut satisfaire tout le monde. Et l'autofoot, c'est justement un jeu qui doit faire peur à ses amis quand on leur montre son propre jeu.
Question de Biscuit de Reims. Salut les amis, êtes-vous abonné à Marca, La Gazzetta ou les autres pour obtenir les compos?
Non. Alors, il n'y a pas besoin d'être abonné pour ceux que tu as cités. Donc, ça tombe bien. La Gazzetta, c'est exceptionnel en Italie. Les Italiens, ils ont toujours eu un temps d'avance et plusieurs sites pour les compos. Il y a même des probabilités entre deux joueurs. Lorsqu'ils sont en ballotage, ils mettent 60-40 entre deux attaquants. Et effectivement, c'est les sites qu'on consulte pour les compos, mais on n'a pas d'abonnement spécifique. Je ne sais pas, toi, Chris, si tu as quelque chose à rajouter.
Non, je n'ai pas d'abonnement non plus.
Ok, merci. Question de Mouloud JC. Hors l'autofoot, que pensez-vous des deux matchs en Ligue 1 avec les changements d'entraîneur en milieu de semaine, Nantes et Lyon?
Alors, ce qui est bien cette saison, parce qu'on nous a posé la question la semaine dernière, et j'ai dit qu'il n'y avait pas assez de cas avec les changements d'entraîneur, on va pouvoir faire des stats sur les changements d'entraîneur, vu le nombre de changements qu'il y a. C'est assez exceptionnel, je trouve.
C'est vrai. Vous avez un avis?
Après,
je n'ai
pas d'avis. J'ai pas d'avis. Lyon, okay. Vous connaissez mon choix, mais Nantes.
Après, c'est deux cas différents aussi. Pour l'instant, Lyon n'a pas encore son nouvel entraîneur. Donc,
c'est l'intérimaire.
Voilà. Nantes, on récupère Gourvenec. Gourvenec n'a pas forcément réussi très très bien dans le championnat de France de Ligue 1 pour l'instant. Donc, c'est un gros point d'interrogation. Et en plus, malheureusement, ces deux formations ont un match très difficile ce week-end. Hein. Lyon, bien sûr, va à Lens. Et Nantes reçoit Nice, une équipe quand même en grande forme sur ce début de saison. Donc, ça sera peut-être difficile de juger sur ce premier match quand même.
Mais c'est vraiment les chaises musicales, hein. Et puis si jamais Genesio va à Lyon, sa période de chômage entre guillemets n'aura pas duré bien longtemps. Je suis assez impressionné par ces chaises musicales ou tournantes.
Question de Raphaël. Bonjour la team. Une question non foot. Je voudrais savoir comment est née cette équipe Raph, Chris et nous. Des potes. Merci. Je kiffe l'émission. Bah, c'est un mercato avec des.
Ah non, on n'est pas potes du tout, hein.
Je sais pas. Je te laisse dire un mot là-dessus, Nadim.
Oui, ben en fait, c'est l'aventure Pronosoft qui a derrière ça. Avec Raph, on s'est connus dès 2007 avec le jeu, le groupement en outils, mais on a sympathisé, puis on a bossé ensemble. C'est comme ça que les belles rencontres se font. Et Chris, je ne sais plus, je pense que c'est Raph qui a
c'est Raph qui m'a contacté.
Toi, ouais. Alors qu'on cherchait un pronostiqueur multisport dont on manquait sur le site. Et voilà, on est les trois dans la société. Et puis oui, on s'apprécie beaucoup, donc... c'est une bande de potes, lui.
Moi, je cherchais un supporter de Clermont et il n'y en avait qu'un. Et j'ai appelé Chris. Nouvelle question de Raphaël. Une autre question, je voulais savoir quelle formation avez-vous ? Nous, informaticiens, point d'interrogation, tiens, c'est marrant ça. Chris, journaliste, point d'interrogation. Merci pour la réponse.
Bah, il vise assez juste pour ma part. Ouais, j'ai une formation dans l'informatique, sauf, même si maintenant c'est un peu touche à tout, mais c'est effectivement ma formation à l'origine. Je sais pas, Chris.
Non, après moi j'ai pas de formation de journaliste. Hein. J'ai été surtout footeux. Voilà, j'ai souvent rappelé footeux en National et Ligue 2. Et après quand j'ai arrêté, je me suis penché sur la Dépêche du Midi ici m'avait contacté pour faire pas mal d'articles sur les matchs de foot du week-end. Donc je m'étais basculé là-dessus et puis finalement ça m'a plu ce métier un petit peu là de journaliste et après je me suis lancé dans les paris sportifs et de la RAF m'avait contacté et donc c'est parti comme ça.
Merci pour les précisions. Encore une question de Raphaël Nau. Je voudrais savoir si tu utilises beaucoup les diagonales dans le logiciel et si tu as une stat sur le nombre de diagonales qui sortent à chaque grille. Perso, j'en mets toujours une. Il faut aller sur www.pronosoft.com. Vous avez toutes les stats possibles, inimaginables. Les diagonales, les tiercés, les quartés, les consécutifs, tout ce que vous voulez. www.pronosoft.com. Je pense que toi, Nedim, toi, tu les exclus pas par contre hein, dans tes jeux.
Oui, tout à fait. Jusqu'il y a 5-6 ans, j'en jouais jamais. Je comprenais pas le truc et Baggio m'a communiqué sa façon de faire. Je les prends pas sur les stats diagonales. J'observe vraiment la grille. Je me dis où est-ce qu'il y a le risque de diagonale. Quand j'ai une base en 1 et une base en 2, je regarde s'il peut y avoir nul sur le trip que j'ai mis au milieu, s'il est très probable. Parce que voilà, il faut regarder en fonction de ses pronos, est-ce qu'il y a un risque ou pas de diagonale. Et je touche au maximum 1 ou maximum 2 en fonction des grilles. Ça file toujours un peu, c'est toujours appréciable. Combiné à d'autres préférences, on arrive à gratter quelques pourcents.
Nadine, tu voulais finaliser tout à l'heure la précision que tu as apportée par rapport à la question que je t'ai posée sur les 7 buts, sur les scores 4 à 3.
Tout à fait. Alors, il y a en fait dans le score exact multi-choix, que ce soit Paris en sport, point de vente ou en ligne, il y a une option où il y a le 3-2, 4-2, 4-3 ou 5-1 et une autre option où il y a le 2-3, 2-4, 3-4 ou 1-5. Donc, le score de 4-3 est inclus dans deux options de multi-choix. Et donc, si on veut autre score, il n'y aura pas le 4-3 qui est déjà présent dans une des options proposées par le book. Donc, c'est 7 buts. Moi, je résume le autre score multi-choix par 7 buts ou plus pour l'équipe qu'on a choisie, hormis le 4-3.
Merci pour cette précision. Question d'Anthony. Question pour l'équipe. Que pensez-vous, pensez-vous que Gattuso va tenir à Marseille ?
Là, il est en sursis, je dirais. Hier, la victoire lui a donné justement du sursis. Mais une défaite contre Rennes pourrait faire mal, je pense.
Chris ? Non, c'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Le sursis a été hier. Je pense que s'il y avait eu une défaite, je pense que ça aurait été compliqué pour lui déjà. Et ce match face à Rennes est vraiment un test. Et c'est peut-être un tournant pour Marseille, mais un tournant dans les deux sens. Hein. Peut-être dans le mauvais s'il y a une contre-performance. Hein. Donc, je trouve que pour l'instant, il n'a pas forcément imposé en plus son style de jeu. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment un style de jeu. J'en ai pas vu pour l'instant du côté de Marseille. Donc, je suis quand même un peu inquiet pour les Marseillais.
Et vu qu'on reparle de coach, et pour revenir à l'ironie du sort dont tu parlais, Raph, l'ironie du sort, ce serait quand même que Genesio perd contre Lyon avec son équipe de Rennes pour se faire éjecter et réintègre Lyon. Ouais. C'est ça un peu l'ironie du sort.
C'est vrai. Question de Chalmar. Chris, quelle est ton expérience sportive dans ce milieu ? Alors, tu fais, puisque tu nous parles de rugby, tu nous parles de basket, tu nous parles de foot, il veut en savoir un petit peu plus.
Ouais, bon, alors moi j'ai toujours été un sportif. Bon, déjà, au niveau foot, j'ai été stagiaire pro à Caen. J'ai fait plus de 400 matchs en National 1. J'ai fait quelques matchs en Ligue 2. Donc déjà au niveau foot, j'ai quand même une expérience plutôt sympa. Et après, je suis né dans le pays du rugby, donc en Auvergne. C'est le pays du rugby avec Clermont. J'ai pas mal de potes qui ont joué en pro du côté du rugby. Donc je me suis aussi basculé là-dessus et j'ai regardé beaucoup de matchs. Et moi, j'aime le sport, et j'aime les sports majeurs. Donc, c'est pour ça que je regarde un petit peu de tout.
Merci à toi. Question de Chény. Pourquoi dans les rapports l'autofoot n'avons-nous pas le nombre de grilles perdantes également ? Ce serait intéressant de le savoir aussi.
Oui, ce serait intéressant. Après, il se déduit assez facilement. Hein, puisque
avec les enjeux.
Il suffit de calculer les enjeux plus la commission de la FDJ et on aurait le nombre de grilles perdantes. Je sais pas après ce que tu vas en faire, c'est que la curiosité, mais c'est les enjeux qui importent plus ici.
Question de Raphaël Latim. On veut vous voir avec des pulls de Noël pour la prochaine émission. Bah écoute, ça peut être un défi sympa, hein, mais après il faut assumer, hein, parce qu'on est bien d'accord que c'est le plus dégueulasse qui gagne, hein, c'est bien le but. Hein. Question de Hagon. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui fait une grille à 1 euro peut remporter le pactole? Bien évidemment que c'est possible, Nadim, je te laisse.
Bien évidemment que c'est possible, mais c'est absolument pas la stratégie de jeu qui est l'auto-foot. Si vous avez 1 euro à jouer avec 14 matchs, il vaut mieux faire un combiné chez un bookmaker. Le loto-foot, c'est un jeu de stratégie où il faut utiliser au mieux ses triples quand on veut jouer des triples, ses doubles et ses bases. Et après, avec 1 euro, on peut jouer, mais on ne gagnera pas de sa vie, sauf par un coup de bol. Donc, autant jouer au loto, je dirais, à ce compte-là. L'auto-foot, il faut se dire, il y a des matchs complètement indécis. D'ailleurs, ça me fait plaisir, en quelque sorte. On a quand même deux triples en commun, Chris et moi. Ça veut bien dire que deux pronostiqueurs se disent que le Barça et puis Toulouse-Lorient, ce sont deux matchs complètement illisibles et qu'on ne va pas se risquer à mettre une croix au hasard. Donc, c'est ça la stratégie du loto-foot.
Question de Persova. Petite proposition d'amélioration du live score. Une fois que l'auto-foot est lancé le dimanche à 15h, au lieu d'afficher l'estimation des rapports Pronosoft, pourquoi ne pas récupérer plutôt la donnée de l'estimateur FDJ qui donne les rapports exacts, puisque c'est un test de jeu en live, pour rendre fiables les rapports et pour ceux qui n'ont pas l'appli FDJ.
Merci. Alors, on n'y avait vraiment pas pensé, hein. Mais là, tu te doutes que les données de la FDJ sont propres à la FDJ et les données de Pronosoft sont propres à Pronosoft. Donc, on peut pas aller pomper sans autorisation et gros accord écrit des données comme ça de ce que la FDJ publie. Donc, c'est une question de droit et on n'est absolument pas autorisé à le faire. Mais sinon, l'idée est là depuis que l'estimateur est sorti, depuis que la FDJ publie ses rapports. Et même avant, il y avait eu des tentatives en 2009-2010 de faire des choses plus poussées dans ce style.
Question de Prosper 29290. Quand Raph dit « il faut cliquer sur le pouce », on parle de YouTube et Twitch, car sur Twitch, je ne vois rien de tel. Alors, je ne sais pas si ça peut être une bonne question, Nadim.
Ouais, non, il n'y a pas de like. Il n'y a pas de like sur les vidéos Twitch et compagnie. Ouais. Par contre, il y a aussi, on diffuse des vidéos sur Twitter, enfin X, ex-Twitter, et là, on peut liker, mais… La majorité de notre audience est quand même sur YouTube. Peut-être pas en live où il y a beaucoup de viewers ou streamers qui nous regardent sur Twitch, mais pour les replays, c'est essentiellement sur YouTube. Voilà le pourquoi du message de Raph.
Désolé, je suis déjà sur la prochaine question et je ne sais pas si c'est de l'ironie ou pas. C'est une question de Sébastien. Au sujet de Chris, tu jouais en Ligue 2, Chris? C'était dans les années 70.
Je fais pas aussi vieux quand même. Je fais pas aussi vieux.
Si c'est une vanne à l'époque.
Ah, je suis né en 76, donc ça va. Je suis pas aussi vieux. Et pour l'info, j'ai signé stagiaire pro à Caen en 95. Donc voilà, c'est pendant cette période où j'ai joué quelques matchs et à cette période j'étais dans la promotion de Jérôme Rotten, mais bon, lui a suivi un chemin plus important que le mien. Et d'ailleurs, il était beaucoup plus doué que moi à l'époque.
Merci pour ta précision et merci à Sébastien pour sa question qui m'en pose une à moi directement. Et Raph, c'est quoi ta formation de base? Alors, si on parle de la formation de base, elle est strictement commerciale. Voilà, pour te répondre. Question de Chalmar. N'avez-vous pas remarqué plus de nuls en fin de l'autofoot 15 depuis quelques temps? Ah oui, il veut dire qu'en fin de grille, sur le bas de la grille, il y a plus de nuls.
Ouais.
Est-ce que ça a une importance réelle?
Ouais, c'est exactement ça, tout à fait compris. Raph, oui, il y a pas mal de grilles où il y a beaucoup de nuls qui sortent. On a eu deux séries consécutives de nuls assez improbables, donc la dernière, et puis je ne sais plus quelle grille, peut-être un 12 où il y avait eu plein de nuls consécutifs. Donc c'est plus la période qui veut ça. On a un vrai hiver qui se profile, enfin qui est en place, un vrai automne en tout cas, avec des pelouses bien grasses. D'ailleurs, c'est l'argument de Chris pour le nul du côté de Francis Leblé, et il se tient complètement, hein, donc des pelouses en mauvais état, et ça favorise les matchs nuls, et peut-être des équipes qui redeviennent plus calculatrices. Alors, la Ligue des Champions, c'est un peu spécial, mais en Ligue 1, ça va beaucoup calculer cette saison. Même Montpellier et Clermont, qui jouent le maintien, n'étaient pas mécontents de partager le point du nul. Donc oui, il y a le retour des matchs nuls, effectivement.
Question de Jérôme, pourquoi Badjou publie-t-il si tard ses grilles? Je crois qu'on a déjà eu la question, on a bien répondu. Ouais.
Ouais, alors Badjo, il n'est pas dans l'équipe Pronosoft qui travaille et qui est salarié de Pronosoft. Il nous fait ses pronos un peu quand il peut. Il a son métier. Il y a énormément de grilles donc depuis 2-3 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je le remercie toujours de jouer le jeu et de donner ses vrais pronos puisque c'est lui qui est toujours derrière. Donc voilà, il fait au mieux, mais je vais lui repasser le message pour essayer de faire toujours un peu plus en avance.
Et on te salue au passage, l'ami Badjo. Mais c'est la fin de cette émission, il n'y a plus de questions. Merci pour votre attention. Merci aussi, une nouvelle fois, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Pronosoft. C'est super important pour nous. On se retrouve vendredi 8 décembre en direct à 13h sur YouTube et sur Twitch. Et avec une grosse actu, puisqu'il y aura un Loto Foot 15. Donc le week-end prochain avec un super pactole de 2 millions d'euros. En attendant, excellent week-end, bon match, bon prono. Salut la team, à bientôt.
Bon prono, bon week-end.
Bon prono, bon week-end.